Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue au podcast de la rédaction Le Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Salut à tous.
De Mordren.
Salut à tous.
Et de Ben.
Salut.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons du Kickstarter de Perception, on enchaînera sur une mise à jour de Darkest Dungeon, on évoquera également la catastrophe Ultra Street Fighter 4, nous parlerons de Resident Evil 0 HD Remastered, encore un titre à rallonge signé Capcom, n'est-ce pas messieurs? Du côté de chez Konami, on se penchera sur les récentes déclarations. C'est qui d'ailleurs qui a déclaré que « Oui, non, mais vous comprenez, les consoleux, on vous délaisse pas, on les sent pas. »
C'est le président de Konami qui a évoqué ça.
Cause toujours, tu m'intéresses. Dans l'actualité des DRM, hein, ça fait longtemps, tiens. D'habitude, c'est une marotte, mais bizarrement, ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé. Eh bien, ils sont de retour parmi nous, n'est-ce pas? Et ils reviendront dans le prochain Need for Speed. Et du côté, enfin, pour terminer des MMO, on évoquera Wildstar, qui va bientôt passer en free-to-play. Voilà, voilà, sans oublier notre jeu du moment, enfin, c'est plus une note preview du moment. Mordren, tu as craqué, n'est-ce pas? Ça s'appelle Mad Game Tycoon.
Oui, c'est ça.
Ça ressemble pas du tout à un titre que je connais.
Non, pas du tout. De manière générale, les tycoons, ça se ressemble voilà. Un petit peu, mais...
Qui lui-même pompait sur un autre jeu sur mobile, enfin bref, voilà. Donc, on commence avec le Kickstarter de Perception. Alors, Perception, c'est un projet d'ancien de Irrational Games. Décidément, il faut croire que tous les anciens employés d'Irrational ont pointé au chemdu et comme ils ont pas trouvé de taf, bah écoute, ils vont tous sur Kickstarter. Bon, apparemment, c'est pas des branques, hein. En tout cas, le chef de projet, c'est le lead designer du premier BioShock. C'est pas les stagiaires, a priori. Et donc, ces messieurs et ces dames demandent $150,000. Ils en sont à $64,597. Et le principe, donc, c'est un jeu d'horreur, n'est-ce pas? Sauf que c'est un jeu d'horreur qui utilise le son parce que vous jouez une aveugle, en fait. Et cette personne, donc, utilise le son pour se repérer. Bon, sauf que... Faudra leur dire quand même que je veux bien qu'on soit des aveugles et des sens plus développés, etc. Mais ils ont pas un sonar non plus, faut pas déconner.
C'est Daredevil en fait.
C'est exactement ça.
Voilà. Donc avec ses super pouvoirs, elle va pouvoir voir des choses avec son sonar, etc. Et évidemment, comme toujours, hein, elle va aller se balader seule dans une maison a priori hantée. Hein. Enfin, ils sont toujours cons les héros de jeux vidéo. Hein. Je veux dire, ils vont seuls, perdus en plein milieu de la cambrousse avec la neige, etc. Dans un manoir hanté. Enfin,
les voilà. Héros de film aussi.
Ouais. Et chacun ses vacances. Hein.
Toujours le bon plan, hein, je veux dire. Bon, messieurs, qu'en pensez-vous? Parce que bon, au-delà du pitch qu'il faut l'avouer est un peu naze, quand même, sur le plan du gameplay et des mécaniques, ça a l'air intéressant tout ça.
Ouais, c'est clair. Moi, j'ai regardé du coup la vidéo de présentation avec intérêt. En fait, en fonction des sons qui entourent le héros, enfin l'héroïne, vous allez voir en fait ce qui se profile à l'écran. Par exemple, s'il y a du vent, vous allez voir un petit peu plus en fonction de où s'arrête le vent, etc. Et en intérieur, par contre, il y a beaucoup moins de sons. Du coup, c'est beaucoup plus noir et donc c'est beaucoup plus oppressant. Et si vous ajoutez à ça, évidemment, des petites mécaniques d'horreur, ça peut être assez intéressant. Donc personnellement, je pense que je vais passer mon tour.
Mordren est une grosse flippette qui hurle rien que quand il y a des loups, alors je veux dire, c'est
exactement.
Même pas la peine. Hein.
Du coup, très honnêtement, enfin voilà, je trouve le truc super intéressant, ça peut intéresser tous les gens qui sont fans de jeux d'horreur.
Je trouve que l'idée de gameplay, bien mise en avant dans le trailer en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire vis-à-vis de ce qu'on voit pas, mais j'ai peur que ça s'essouffle sur le long terme s'il y a que ça qui est proposé en fait.
Bah déjà tu sais dans le trailer on le voit venir gros comme une maison le truc. Hein.
Ouais, c'est... voilà. C'est pour ça que j'ai peur que sur la longueur après je sais pas combien de temps va faire le jeu. S'il durera 3-4 heures, ça peut être une expérience sympathique, mais...
Ouais, je pense que ça va être très court.
Ouais.
Bah, comment tu renouvelles cette mécanique-là, quoi?
Ouais, mais en tout cas, on n'a pas trop vu ça dans les jeux d'horreur.
Alors, il y avait déjà eu un concept comme ça sur Kickstarter, je me rappelle plus du titre, hein, mais c'était plus ou moins le même concept, sauf que c'était pas un jeu d'horreur, mais l'idée, en tout cas, de gameplay n'est pas novatrice en elle-même, hein. Qu'on soit clair, c'est plus le côté, on applique ça à un jeu d'horreur qui est nouveau, quoi.
Donc voilà, j'espère qu'ils vont trouver d'autres concepts et que ce sera pas ça qui va être utilisé du début jusqu'à la fin du jeu en fait.
Et puis qu'est-ce que c'est une partie de cache-cache quand on a Alien Isolation ou est-ce qu'on a d'autres aspects dans le jeu pour fuir les monstres, etc. Comment ça se passe, quoi? Parce qu'en plus, ouais. Dans le trailer, l'héroïne, elle a pas l'air très réactive, hein. Donc, bon, en même temps, c'est normal, elle est aveugle. Mais du coup, comme tu joues une aveugle, justement, comment tu gères cet aspect-là du jeu, quoi?
Mais s'il y a moyen de jouer à cache-cache et que tu es traqué un peu comme dans Resident Evil avec le Nemesis qui court partout dans la baraque, moi, je pense qu'il y a moyen de se faire quelques petites frayeurs, quoi.
Ben?
C'est vrai que ça a l'air sympa, ça change un peu. Après, ouais, je pense que comme vous l'avez dit, c'est un jeu qui va... Il vaut mieux pas qu'il soit long, parce que sinon il va être répétitif. Donc de toute façon, il demande que, entre guillemets, 150 000 dollars, donc c'est pas non plus un gros budget. Donc, je pense qu'ils ont pas la prétention de faire un truc énorme. Après, il y a des sous derrière.
Ils ont déjà prévu les stretch goals. Hein.
Oui.
Il y en a énormément déjà.
Oui, il y en a énormément, mais c'est toujours pareil. Après, je pense que même c'est dans leur intérêt de pas faire un jeu trop long, qui va s'avérer répétitif, et à moins qu'ils arrivent à trouver d'autres phases de gameplay... Mais de ce qu'on voit dans le trailer, ça a l'air voilà une sorte de partie de cache-cache et surtout d'exploration. C'est un jeu d'ambiance quoi. Donc après à voir ce qu'ils vont en faire, s'ils se font kickstarter, à voir ce qu'ils peuvent apporter en plus.
Bon, bah, dans tous les cas, c'est un projet qu'on suivra parce que il y a quelques petites idées originales, donc ça fait plaisir. On enchaîne sur un jeu qui avait justement été financé sur Kickstarter, et que d'ailleurs j'avais financé. Ça s'appelle Darkest Dungeon, qui va avoir droit à des mises à jour. Pour ceux qui n'ont pas suivi Darkest Dungeon, je le rappelle, c'est un roguelike, sauf qu'on gère un groupe, et c'est un roguelike avec une ambiance Lovecraftienne. Donc c'est-à-dire que vous allez vous balader dans des donjons, et dans ces donjons, vous allez devoir gérer la santé mentale de votre groupe pour qu'ils ne deviennent pas complètement cinglés. Parce que évidemment, hein, ils rencontrent des bestioles un peu particulières, tout ça. En plus, il fait noir, donc ils ont tendance à un peu stresser. Plus ils stressent, plus ils deviennent fous. Et plus ils deviennent fous, plus il se passe des choses marrantes dans le jeu. Donc voilà, ce jeu a eu droit à une mise à jour de son Early Access. Il va y avoir de nouvelles classes, plein de boss, des nouveaux objets, un nouveau bâtiment en ville. Bref, c'est un Early Access comme on les aime. Messieurs, je me tourne vers vous. Est-ce que ça vous attire tout ça?
Alors moi, personnellement, le jeu m'a toujours un peu attiré, surtout quand tu nous avais fait le test.
Enfin, le test, la preview.
La preview en podcast. Et donc oui, franchement, ça m'intéresse. Moi, je vais peut-être craquer un de ces quatre. Et c'est marrant parce que j'ai vu un papier sur cette mise à jour chez Rock Paper Shotgun et qui disait que c'était une extension. Parce qu'en fait, on n'est pas trop habitué à avoir des mises à jour d'ampleur comme ça sur un early access. On a des hotfix, etc., etc. Là, pour le coup, il y a du vrai contenu, c'est-à-dire deux nouvelles classes où il y aura moyen certainement de s'amuser et des vrais ajouts au gameplay, quoi.
Alors après, c'est pas pour temporiser, mais les early access de qualité, en tout cas, c'est comme ça.
Oui, alors moi je pense par exemple à The Long Dark, que j'évoquerai probablement bientôt. Voilà, il y en a, mais il y en a peu. Ce que j'ai retenu aussi, c'est le côté crise cardiaque. Le fait que les héros, en fait, il me semble, alors arrête-moi si je me trompe, mais avant, si tes héros étaient stressés, bon, il n'y avait pas vraiment de conséquences mortelles.
Mortelles, non, mais il y en avait quand même.
Il y avait des conséquences.
Ils étaient à moitié cinglés, ils avaient des putains de malus, il voilà. Y en avait. Bon, après, les malus, tu pouvais les faire sauter en les mettant à l'asile, mais ouais. Voilà, quoi.
Et là, pour le coup, c'est genre... c'est fini, quoi. Si il est trop stressé, ton mec, bye-bye. Donc ça, c'est un nouvel ajout de gameplay qui va... à mon avis, changer les physionomies des parties de Darkest Dungeon, quoi.
Ça, plus le fait qu'on aura beaucoup plus de malus permanents, en fait, ouais. Que tu ne pourras pas soigner à l'asile. Donc, du coup, ça te poussera, parce que on avait tendance à avoir ces routines de gameplay, à avoir son groupe qui tournait bien, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, on avait un peu le groupe de trash mob qu'on envoyait se faire tuer, quoi. Et on avait notre groupe de vétérans, quoi. Qu'on chouchoutait et qu'on essayait de préserver, qu'on envoyait à l'asile quand il fallait, etc. Donc voilà, on essayait de les conserver un maximum. Et là, c'est plus le cas, quoi. C'est-à-dire que même ton groupe de vétérans, s'il se prend des manus permanents, bah voilà, c'est fini, quoi. Enfin, c'est fini. Faudra assumer, quoi, derrière. Alors qu'avant, bon, tu pouvais gérer la situation en faisant sauter les manus, etc., quoi. Donc vraiment, c'est un jeu, moi... Je vous l'ai dit, hein, pour moi, c'est l'un des rares early access qui vaut vraiment le coup, parce que les mécaniques de base sont super fun. Enfin, c'est déjà un jeu en soi, quoi. Tu prends vraiment du plaisir et il vaut son prix, quoi, j'ai envie de dire. Et là, toutes ces mises à jour, etc., ce suivi, ben voilà, ça fait partie de ces early access où je pourrais conseiller éventuellement de se lancer dans l'aventure, parce que les mecs sont sérieux, le jeu est super fun tel qu'il est, déjà. Si vous n'êtes pas ultra aussi le Early Access, c'est vraiment l'un des rares qui vaut le coup, quoi.
Après, là, j'ai l'impression que, quand même, c'est... Ils essaient de rendre le jeu encore hein, beaucoup plus hardcore avec ces espèces de morts sadiques, là.
Bah, si tu veux, le truc, c'est que... Le jeu devenait facile au bout d'un moment. Quand tu comprenais les mécaniques, etc. Et je pense que, justement, le fait qu'il est rendu, entre guillemets, plus hardcore, c'est parce qu'ils se sont rendu compte que il y avait des grosses failles dans leur système, quoi, en gros, qui, sur le long terme, pouvaient rendre le jeu inintéressant, quoi. Justement, ça prouve, tu vois, que les mecs ont un suivi derrière et qu'ils prennent en compte les retours, etc., quoi. Voilà, voilà. Bon, on va passer du côté de nos amis les éditeurs, n'est-ce pas? Et je crois, Ben, que on a un petit souci au niveau de Ultra Street Fighter 4.
Oh, un petit, juste, oui.
Oui, parce que, pour rappel, donc Capcom avait confié à Sony, il me semble, les soins du portage PlayStation 4. Version PlayStation 4 qui devait être utilisée pour un tournoi, il me semble, il y a un problème.
En fait, ouais, c'est même le portage, il a été fait par une société qui s'appelle Other Ocean Interactive, qui visiblement est déjà connue pour faire des trucs pas très bien. Et là, pour le coup, bah, le jeu est sorti hier ou avant-hier, enfin cette semaine, et il est plein de bugs. C'est un jeu qui a pas été testé. Il y a des bugs, mais juste énormes. Je vous conseille d'aller voir une ou deux vidéos. C'est n'importe quoi. C'est pas le petit bug de texture qui t'empêche quelque chose. Là, c'est vraiment des bugs énormes pour un jeu de combat. Donc, il y a des ralentissements, des bugs sonores, de l'impossibilité de se connecter pour jouer en live parfois. Enfin, tout la totale, on va dire.
Et surtout pour un jeu de combat, l'input lag qui est tu mets un coup, t'appuies sur la touche de la manette et t'as le coup qui sort deux secondes après.
Exactement, ouais.
C'est chaud, quoi.
Et surtout que ça devait être la nouvelle référence des jeux de combat pour le l'e-sport. Donc il était déjà prévu qu'au prochain Evo 2015, que ça soit ce jeu-là qui soit joué, mais bon, c'est mal barré. Alors Capcom du coup a déjà annoncé qu'il allait avoir un patch. Mais c'est toujours pareil, pourquoi sortir un jeu une semaine plus tôt si on sait qu'il est tout buggé pour préparer un patch et pour au final se faire taper dessus? On va encore en revenir aux mêmes choses, mais c'est
attends,
toujours la
parce
même.
Que pour éclaircir les choses, il me semble que c'est Sony qui était responsable du portage. Hein.
C'est peut-être eux qui sont responsables, mais ils l'ont confié à une autre boîte,
oui,
ça c'est
voilà.
Sûr. Ouais.
En fait, Sony avait demandé à Capcom Ultra Street Fighter 4 sur PlayStation 4. C'est Sony qui a financé en fait
voilà.
Le jeu et le portage. Donc c'est Sony qui s'occupait de confier le jeu au studio qui
l'ont
fait.
Exactement. C'est pas eux qui l'ont fait directement, ouais. Mais c'est en été les responsables du portage.
Ouais, c'est pas Capcom qui a choisi un intermédiaire.
Non,
pour faire
voilà,
le boulot,
exactement.
Quoi.
C'est Sony qui l'a choisi parce que c'est eux qui voulaient ce portage. Bah, une fois de plus, c'est un portage qui a encore été fait à la va-vite. Pour les raisons, bah, c'est toujours les mêmes pour sortir le jeu plus vite. Enfin, on sait pas trop. Et c'est...
Je vous invite, mais vraiment, allez lire l'article de GameCult sur
ah
le
oui,
sujet.
Ah oui, il est intéressant, ouais.
Il est très très intéressant. Je vous mettrai un lien dans les commentaires de l'émission.
Oui, parce qu'il y a une
vraiment,
rétrospective
top, hein.
D'anciens portages. Enfin, c'est pas juste sur celui-là. C'est vraiment intéressant. Ouais.
On peut rappeler aussi que à l'époque de la version Xbox 360 et PS3 du jeu Street Fighter 4, la version de Street Fighter 4 sur PlayStation 3 tournait moins bien que sur la 360. Donc c'était la version 360 qui était utilisée pour les tournois. Elle avait un meilleur input lag, le jeu ramait moins, enfin c'était une version mieux optimisée pour la console de Microsoft, et donc c'était la version qui est utilisée pour les tournois, et là peut-être que pour le prochain tournoi ils vont devoir retourner sur une version 360.
Ah non, c'est pas peut-être, c'est confirmé.
Ouais, mais bon, c'est quand même Sony qui avait mis des sous dans le tournoi, donc là ils vont tout faire pour
c'est compliqué
essayer...
comme situation.
Ils vont, parce que pour jouer sur une version PS3 alors que t'as la version 360 qui est mieux, et que Sony a mis quand même de l'argent dans le tournoi, ils voudront jamais que ils utilisent une console Microsoft dans leur tournoi.
Ah ouais, non, mais dedans. Mec, t'as fait de la merde à un moment donné.
Ah
voilà,
non, mais ça c'est... ça c'est clair et net que, enfin, c'est le portage de la honte. Le jeu s'est fait défoncer par la critique sur tous les sites.
Bah oui.
Je comprends pas comment on peut arriver à faire moins bien sur une console plus puissante que l'ancienne génération. Enfin, il y a comme un paradoxe temporel en fait.
C'est très simple, le portage a été fait à l'arrache dans des délais qui étaient pas tenables et puis avec un budget ridicule.
Ouais, c'est ça. Bah, non, oui, mais voilà. C'est clairement ça. Mais bon, c'est enfin. Surtout quand tu promouvois un tournoi avec cette version-là et que tu fous ça, c'est du travail de chien qu'ils leur ont proposé, quoi.
Je vous conseille vraiment d'aller voir quelques vidéos de bugs. Enfin, on avait rigolé à l'époque sur Assassin's Creed sur quelques bugs, mais là, c'est même pas comparable pour moi, quoi. C'est vraiment impressionnant.
Parce que là, attends, faut pas déconner quand même. C'est deux mecs dans une arène.
Oui, voilà, c'est moins compliqué à faire aussi.
Et puis c'est. Alors oui, ok, c'est vrai qu'il y a toutes les histoires de netcode, etc., qui sont très compliquées. Ça, c'est vrai. Mais à ce moment-là, tu prends quelqu'un qui a de l'expérience dans le domaine. Ben,
c'est ça le problème, c'est qu'en plus,
le studio
qui a été choisi, ils ont quasi jamais fait des deux jeux de combat, à part un portage, je crois, pour Mortal Kombat ou quelque chose comme ça. Et ils n'avaient pas d'expérience dans le domaine, et ils sont, entre guillemets, réputés. Enfin, ils ont une mauvaise réputation, justement, pour ça. Donc, c'est incompréhensible, mais bon. Ça fait un moment qu'on comprend plus déjà ce genre de portage et ce genre de sortie à la va-vite, donc c'est pas nouveau presque.
Oh putain, je suis en train de voir la vidéo que Ben vient juste de nous envoyer, là, c'est...
c'est de la folie.
Oui, faut pas être épileptique, hein. Je vous confirme que, enfin voilà, c'est chaud. Et tu te dis que des mecs, à aucun moment, ils sont inquiétés, tout va bien.
Ah ouais, non, mais c'est... c'est... Même question de conscience, tu peux pas sortir un jeu comme ça, c'est pas possible. Qu'il y ait des petits bugs, ça arrive, on n'est jamais content qu'il y ait des bugs, mais c'est des choses qui arrivent, des petits bugs quand ils sont corrigés, etc. Mais là, ça empêche même de jouer.
C'est même pas juste une histoire de netcode aux fraises, quoi. C'est,
ouais, non, c'est...
C'est de la merde. Enfin,
ah, non, mais par exemple, il y a des... par exemple, l'attaque de Guy, le Sonic Boom qui devient invisible, des sons qui crachent, qui reviennent, n'importe comment. C'est vraiment, comme on l'a dit, un portage de la honte. Et la vidéo là qui nous met Ben sous les yeux, on voit par exemple Juri qui se téléporte, mais comme Son Goku, mais d'une manière vraiment ultra rapide. Et franchement, comme tu l'as dit, si t'es épileptique, tu fais une crise devant ta télé, quoi. C'est pas possible.
Bon, allez, je vous propose qu'on arrête de tirer sur l'ambulance et qu'on enchaîne sur...
Attends, je vais juste dire quand même que ça m'a donné envie de gerber.
Sur la prochaine actualité de Capcom. Et la prochaine actualité de Capcom, c'est Resident Evil 0 HD Remastered. J'ai envie de dire à TH, est-ce que ça mérite des commentaires? Je ne suis pas sûr.
Oui, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, avec ce titre à rallonge... Capcom vient d'annoncer donc cette version du jeu qui était sorti sur GameCube en exclusivité à l'époque. Vu le succès en fait du premier Resident Evil qui avait été porté aussi sur GameCube, qui avait été vendu l'année dernière en dématérialisé, ils avaient fait plutôt un bon score. Ils ont dit bon bah oui bah ça marche bien le dématérialisé, on va continuer là-dessus. Donc là ça a été annoncé uniquement pour l'instant au Japon, mais on n'est pas con parce qu'on sait très bien que voilà c'est Capcom. L'argent, ils aiment ça, hein. Et les remasters, c'est pas nouveau. Donc c'est prévu pour PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 et PlayStation 3. Ça va très certainement arriver aussi chez nous dans le courant de l'année. Et là, pour l'instant, c'est prévu début 2016.
Et sinon, sortir un bon Resident Evil récent? Non? Ok, d'accord.
C'est trop compliqué.
Attends, mais il y a Resident Evil Révélation 2, là, en épisodique. Ah non, excuse-moi, c'est de la merde.
Après... Why not? Franchement, si c'est du niveau de ce qu'avait fait Capcom à l'époque quand ils ont fait le remake, parce que c'était un vrai remake pour le coup, tu vois, c'était vraiment le mot remake prenait tout son sens quand ils l'ont sorti sur GameCube, le remake du premier épisode, où ça défonçait, enfin voilà, le jeu il est juste trop beau, et même encore aujourd'hui, je suis bluffé par le rendu du jeu, quoi.
Il est super beau.
Ok, très bien. Par contre, si c'est juste pour nous sortir un truc un peu lissé... Déjà que Resident Evil 0, en plus, c'est loin d'être le meilleur de l'époque. Alors en plus, s'il est pas terrible techniquement, voilà quoi.
Enfin, dans le titre, tout est dit quoi. HD Remastered, ils vont juste lisser les textures et tout ça. Le jeu à l'époque, quand même, il était très beau aussi. Il était moins beau que le remake du premier Resident Evil. Mais il restait un petit peu dans cette veine-là parce que tout était précalculé. Donc on avait les décors en 2D. Et les personnages qui étaient en 3D, à l'œil, ça va pas faire tâche aujourd'hui quand ils vont le remettre en HD, mais ça va quand même mal vieillir. Je pense pas que Capcom ils vont mettre autant d'argent qu'à l'époque où ils avaient fait le remake du premier Resident.
Et puis surtout, je sais pas s'ils vont changer un peu le gameplay, mais le gameplay des premiers Resident Evil, ça vieillit, quoi.
Bah, donc, c'est, tu conduisais un tank, et surtout que dans celui-là, il y avait plus ces coffres magiques, en fait, où on mettait le flingue, par exemple, dans un coffre, et on se baladait 500 mètres plus loin, il y avait un autre coffre, et on retrouvait le flingue dedans. Non. Là, je rappelle qu'il y a toujours un nombre de cases limité, et on peut pas en prendre 5 objets sur soi. Et si on veut en prendre un sixième, et bah, il faut poser un objet de l'inventaire. On le mettra par terre. Il restera toujours à cet endroit-là où on l'a mis. Et par exemple, si c'est une clé, comme il y a beaucoup d'allers, c'est un jeu quand même où il y a beaucoup d'allers-retours, ça peut vite devenir très très chiant sur le long terme, quoi. Même si on se dit que pour l'immersion, c'est plus réaliste. Enfin, je veux dire, quand tu vois qu'une clé prend une case, elle prend le même nombre de cases qu'un pistolet. Enfin, il y a des trucs, je pense, qu'ils peuvent essayer d'optimiser ça pour aujourd'hui, pour rendre l'expérience un peu moins frustrante qu'à l'époque, quoi.
Bon. Mais nous allons maintenant nous tourner du côté de Konami, Marvel. Oui. Alors, de ce que j'ai constaté, hein, apparemment, chez Konami, ils ont viré tout le monde chez Kojima Productions, tout ça. Donc, normalement, je me dis, Konami, bon, ça va, le jeu sur console, ils en ont rien à foutre. En plus, ils ont annulé Silent Hill, donc voilà.
Ouais.
Et puis, apparemment, non, en fait. Alors, peux-tu nous expliquer ce mystère, Mordren ?
Ouais. Alors, il faut savoir qu'au début du mois de mai, en fait, le président de Konami, qui s'appelle Hideki Hayakawa, a donné une interview au média japonais qui s'appelle Nippei. Et donc, cette interview vient juste d'être traduite en anglais, donc c'est pour ça qu'on la relaie que maintenant. Et donc, il se défend un petit peu d'abandonner les consoles, les jeux sur console. Et voilà ce que le monsieur dit. On entend souvent l'expression « le portable avant tout », et je veux préciser que nous n'avons pas du tout l'intention de nous concentrer purement sur les jeux mobiles. Notre but est de continuer à construire un portefeuille extensif de jeux consoles, de jeux d'arcade et de jeux de cartes pour chaque propriété intellectuelle, tandis que nous utiliserons au mieux les appareils mobiles qui accompagneront les clients dans leur vie de tous les jours. Donc, il aime beaucoup ses propriétés intellectuelles.
Surtout quand il peut faire des jeux de cartes avec.
Voilà, qui va développer donc des jeux d'arcade, des jeux de cartes, et aussi des jeux mobiles grâce à ses propriétés intellectuelles. Donc, réjouissez-vous, hein, Metal Gear n'est pas mort. Silent Hill non plus. Hein. Par contre, voilà, ce qu'on comprend, en substance, c'est qu'il y aura énormément de companion app dès qu'il y aura un jeu console publié par Konami.
Super, ouais.
Ben, tu le sens venir le jeu 2D Suikoden?
Non, non.
Non, parce que pour ceux qui ne savent pas, dans Suikoden, il y a un jeu 2D dont je me disais ça ferait bien un jeu mobile, tu vois.
Non, mais même clairement, même Suikoden, même en jeu de cartes, ils le ressortiront même pas, quoi, à part si vraiment...
Voici, pour, tu sais, pour les illustrations.
Ouais, mais ouais, tu vois, enfin, je veux dire, enfin, même, tu vois, par exemple, là, Konami, il en reste Pro, Evolution, Metal Gear, Silent Hill, et puis, tu vois, même Castlevania, j'ai l'impression que la série, elle est morte, quoi, maintenant.
Oh, bah, bon, en plus, de toute façon, maintenant, maintenant qu'il y a Castlevania non officiel sur Kickstarter, tu vois, en plus...
Ah, mais moi, tu vois, ça fait chier, parce que, joueur ayant grandi dans les années 90, tu vois, Konami, pour moi, à l'époque, c'était gage de qualité. Quand ils me sortaient des jeux comme les Castlevania, Rondo of Blood, Symphony of the Night et tout, enfin...
Puis même, enfin, la première fois que tu lances Metal Gear Solid, putain, mais attends, la claque que c'était, moi, quoi, mec. Ah, oui, non,
vous me connaissez un petit peu, vous savez très bien que j'apprécie beaucoup la série Metal Gear. Et puis maintenant, tu vois que Konami commence à disparaître petit à petit. Et moi, ça me fait chier un petit peu que ça disparaisse, mais bon, enfin, vu la merde qu'ils font en ce moment, c'est pas étonnant, quoi. Enfin, Castlevania, enfin, même Lord of Shadow, que j'ai bien aimé, ça avait plus rien à voir avec les anciens Castlevania, c'était devenu du God of War-like.
Bah, encore, à la limite, tu vois, s'ils faisaient ça, bon, on pourrait se dire, ok, ils ont changé, tu vois, mais ils s'adaptent au marché, enfin, ouais, machin bidule. Sauf que là, ben, c'est même plus ça, c'est que ils annulent des gros projets comme ça, parce qu'on sait même pas, en fait. On a toujours pas le fameux histoire de la querelle avec Kojima. Ils virent leur principale star, entre guillemets, enfin leur image de marque, en gros, pour le public console, quoi. Et après, ils viennent te dire, oui, non, mais on laisse pas tomber les consoles. Non, mais c'est bon, là, les mecs.
Ah, mais ça, c'est juste, en fait, si la petite déclaration peut faire bien...
Bah, c'est du damage control, voilà, quoi.
Mais, oui, mais c'est, enfin, pour moi, c'est mort, quoi. Konami, ça a plus rien à voir avec le Konami qu'on avait même sur PlayStation 2, quand il y avait les Zone of the Under. Même si, on est d'accord, les ventes n'étaient pas là, mais c'était une nouvelle licence à l'époque. Les Metal Gear sur PlayStation 2 étaient magnifiques. Enfin, Silent Hill 2 et 3 sur PlayStation 2, c'était quand même des monuments du jeu d'horreur. Enfin, ça va faire quand même un sacré tout.
Bon, ben... On avait fait notre date de Suikoden depuis longtemps, je pense, ouais, mais là, c'est définitivement mort. Hein,
oui, je crois qu'on peut laisser tomber. Non, mais ce qui est marrant, en plus, c'est que eux, ils annoncent En gros, ils vont faire des compagnonnables partout, et même Ubisoft a décidé de pas en faire pour le prochain Assassin's Creed parce qu'ils se sont rendu compte que sur le précédent, ça avait foutu la merde, quoi.
Ouais, non, mais après, il faut comprendre que c'est des Japonais. Et que eux, en fait, c'est leur marché avant tout, quoi. Et
ouais, bien sûr.
Le marché japonais, ce n'est pas notre marché à nous, quoi.
C'est pas la même cible, c'est sûr.
Parce que eux, ils sont vraiment concentrés sur mobile, pour le coup.
Ah oui.
D'ailleurs, tiens, je voulais réagir à un commentaire de la précédente émission. C'est Herman qui citait plein d'éditeurs japonais qui étaient au premier plan, machin. Herman, je suis désolé dans la liste que tu donnes. À part Nintendo et Sony, justement, le reste, Sega, pardon. Sega, ils font quoi aujourd'hui? Enfin, à part la division occidentale qui vise des jeux de qualité sur PC, ça on est d'accord, mais Sega Japon, c'est mort, par exemple.
Sega Japon, ça fait longtemps qu'ils sont plus là.
Les seuls trucs qui subsistent aujourd'hui, c'est quoi? C'est les studios qui font des jeux niche comme France Software, avec les Dark Souls. Falcom, c'est pareil, c'est un studio niche, hein, j'adore ce qu'ils font, mais c'est un studio niche. Franchement, à part Square Enix, qui continue d'essayer de faire des choses, qui lance un nouveau moteur, etc. Capcom, moi je suis désolé, ces derniers temps, c'est pas terrible non plus. Qu'est-ce qu'a sorti Capcom récemment intéressant, quoi? Bah déjà, il doit sortir Deep Down, donc voilà, mais...
Il est pas prêt de sortir ce jeu, je pense.
Mais enfin, Capcom, je suis désolé, pour le moment, c'est rien, quoi. Il y a que dalle, il y a pas de job, Capcom. Et tous les gros éditeurs japonais, c'est comme ça, hein. Enfin, à part Square Enix, encore une fois, qui franchement assure. Bon, Nintendo, mais bon, Nintendo, c'est Nintendo, quoi, j'ai envie de dire. C'est un peu un cas à part, quoi. Le reste, bon, voilà, quoi.
Ouais, Capcom, tu vois, même Resident Evil 6, qui était pas super, super en termes de jouabilité et tout, il s'est quand même vendu extrêmement bien pour la qualité du jeu, j'ai envie de dire.
Mais ça commence à dater, tu vois, Resident Evil 6.
Ouais, ouais, non, mais ça commence à dater. Mais là, ils vont mettre le train en route et tout, le lancer... En tout cas, peut-être un nouveau DMC, un nouveau Resident pour faire rentrer au moins un peu de pognon. Même si l'ancien DMC, c'est vrai qu'il s'était croûté parce que c'était Ninja Theory qu'il avait fait et les gens ils ont dit ouais, c'est quoi ce design de merde et tout. Alors que le jeu finalement était quand même assez bon. Mais je pense que, enfin, tu vois, par exemple Square Enix, ils ont racheté des studios occidentaux qui permettent d'avoir une aura internationale. Et ils ont quand même Final Fantasy. Final Fantasy, c'est quand même un monument du JRPG de l'époque PlayStation et tout, ça se vend toujours aussi bien... Enfin...
Non, ça se vend plus aussi bien.
Ça, oui, non, mais ça veut dire par là qu'il y a toujours des volumes de vente raisonnables. Ils sortent pas le jeu à perte, quoi.
Mais tu vois, c'est pour dire que aujourd'hui, les Japonais qui s'en sortent, ce sont ceux qui ont un intérêt à sortir des jeux en Occident, en fait, tout simplement. À part From Software, qui vraiment, pour moi, est un cas... c'est un peu des ovnis, pour moi, parce que c'est quand même les seuls Japs qui osent sortir des jeux hardcore qui sont à plus d'un million d'exemplaires, quoi. Mais ça, c'est un ovni, From Software, faut pas généraliser. Enfin, c'est pas parce que tu as un Japonais comme ça qui cartonne et qui fait des jeux vraiment japonais, quoi, que derrière, c'est le cas pour tous les autres Japonais. Les studios japonais qui comptent, aujourd'hui, ça se compte sur les doigts d'une main. Et encore une main et demie, quoi.
Et encore pour From Software, j'ai envie de relativiser la chose, c'est que ils ont fait 1 million d'exemplaires, c'est un très bon score, mais on est loin, par exemple, de Tomb Raider qui était à 6 millions d'exemplaires où Square Enix faisait déjà la gueule. Après, les coûts de développement ne sont pas les mêmes, on est d'accord.
Oui, et puis attends, tu peux pas comparer un jeu ultra grand public comme Tomb Raider, un jeu hardcore.
Non, mais je veux dire que voilà, si le prochain jeu de From Software ne va pas se vendre, ils peuvent très vite partir dans l'oubli. Ils ont pas le droit à l'échec, en fait. C'est ça que je veux dire. Ils peuvent pas se permettre de sortir un jeu mauvais, qui va pas se vendre, qui va décevoir le public de niche qu'il a. Ça va pour l'instant, mais ils peuvent pas se permettre de faire voilà, la moindre erreur.
Tant qu'on est là-dessus, je vais rajouter juste un petit truc. Pour les abonnés PS Plus, le mois prochain, vous aurez justement le jeu démo vendu par Konami de Metal Gear gratuit. Vous savez la démo, la Grand Zero, qu'ils ont vendu 45€, je sais pas combien, là. Ben, elle est gratuite le mois prochain, donc voilà.
Ah bon? C'est une démo?
Ouais.
Parce que moi j'avais lu sur la presse que c'était un jeu apparemment bien fini. Enfin j'avais lu ça sur un site surtout, mais je vais pas donner de nom.
Enfin bref. On enchaîne et Mordren.
Oui.
Ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas évoqué le sujet, hein, mais les DRM, tout ça, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'il n'y en a pas, n'est-ce pas? Et donc, je crois que tu as des nouvelles par rapport au prochain Need for Speed.
Oui, bah écoutez, le prochain Need for Speed d'Electronic Arts requerra une connexion internet permanente pour pouvoir jouer à des voitures, hein. Voilà.
Attends. On parle bien de la boîte qui nous a fait de la merde sur SimCity, enfin voilà quoi, oui, oui. Qui a sorti plein de jeux avec des connexions permanentes justement. Donc ça veut dire qu'ils n'apprennent pas en fait, c'est ça?
Oui, exactement.
Alors, ce qui est d'autant plus drôle en fait, c'est le communiqué de presse qui va avec cette annonce en fait. Parce qu'a priori, avoir une connexion internet avec ce jeu pourra apporter, je cite, plus de variété et des expériences plus gratifiantes avec vos amis.
Mmh. Ouais, ça me rappelle quelque chose, ça.
Je cite encore, ça permettra à nos amis de faire partie de l'expérience narrative. Pardon. C'est quelque chose qui est seulement possible avec le gameplay connecté. Donc, voilà, une expérience narrative de Need for Speed. Hein. Je pense que c'est l'annonce qu'il faudra absolument... voilà, je pense que je vais l'encadrer chez moi. Need for Speed, une expérience narrative avec vos amis.
Non, mais c'est le 1er avril, il est passé, Mordren, c'est bon. Ça fait longtemps, quoi. C'est pas une annonce sérieuse, tu te fous de moi.
Non, mais en plus, non, mais ce qui me fait rigoler, en plus, c'est que c'est exactement ce qu'ils ont fait à l'époque de SimCity, quoi. Non, mais si ça marche, mais sérieux, je rigole, ça veut dire que les gens n'apprennent pas, enfin, c'est... Non, mais en plus, c'est tellement énorme, quoi.
Pour SimCity, ils étaient revenus dessus, après.
Ouais, non mais enfin, SimCity, sont revenus dessus. Ouais, ils avaient fait un pseudo mode hors ligne.
Oui, voilà, exactement. Mal, non, ça veut dire qu'ils s'étaient tellement fait taper dessus qu'ils avaient, quand même fait un petit truc. Et là, ils recommencent la même chose, d'autant plus pour un jeu où ça n'a aucun intérêt.
Non mais à la limite que tu vois, que tu mettes des options en ligne.
Oui, mais oui, que tu puisses faire du multi en ligne, bien sûr.
Tu laisses le choix aux gens, quoi.
Oui, non mais exactement. Sérieux, voilà.
Quoi. Non mais attends, quand même. La citation de l'année, je pense que on pourra la ressortir lors du bilan 2015, mais une expérience narrative en ligne, genre t'as besoin d'une connexion internet pour que le script soit écrit. Non mais c'est quoi ces conneries, les gamers? Foutez ma gueule.
Non mais une expérience narrative en plus dans Need for Speed
et un scénario dans un jeu de voiture. Non mais et puis quoi.
Non voilà, après qu'est-ce que je rajoute à ça? J'ai envie de dire.
Ouais, je pense que tout est dit. Hein.
Oui.
Non mais en plus, je veux dire, Electronic Arts, c'est pas comme si on avait retourné le sujet. On pensait qu'ils avaient compris, vu les emmerdes qu'ils avaient eues sur SimCity. Visiblement pas. Bah écoutez, continuez comme ça, les mecs ne changeaient rien.
Ils ont essayé la quenelle, tu sais, avec les joueurs PC. Maintenant ils essayent, mais avec le joueur console.
Voilà.
On va voir si ça râle autant.
On attend, tu vois, le moment où ils auront tué Need for Speed et où il y aura une petite boîte qui en profitera pour sortir un jeu de caisse dans la même veine et un peu comme ce qui s'est passé avec SimCity, hein. Je dis ça,
Non, mais attendez, parce que moi, là, je viens de me renseigner quand même sur le prochain Need for Speed et je comprends mieux pourquoi il y aura de la scénarisation dedans, car apparemment, ça sera un reboot. Donc, je comprends mieux pourquoi l'histoire. Un reboot dans un jeu de voiture. Oui. Non mais merci parce qu'il y avait un scénario avant. Il y avait une histoire.
C'est sûr que l'univers était tellement riche que tellement ça méritait étendu. Un reboot.
La Mercedes contre la Audi. Oh putain.
Bon, où j'en étais moi? Ça m'a perturbé là.
Je pense que t'étais prêt à enchaîner là, mon tyran.
nous allons maintenant parler de Wildstar qui passe en free-to-play, c'est ça?
Ouais.
Et oui, un nouveau MMO de plus qui passe en free-to-play, pour pas changer, à part WoW, depuis toutes ces années, il y en a pas beaucoup qui tiennent. Donc Wildstar, c'est la même boîte que les mecs qui ont fait Guild Wars. Ils avaient choisi un modèle économique différent, puisque Guild Wars, le modèle, c'est acheter le jeu et tu joues en ligne tant que tu voulais. Alors que là, c'était un système d'abonnement. Il fallait payer le jeu, c'était un système d'abonnement classique. Et qui, pour changer, n'a pas marché. Alors, on avait déjà eu une discussion à savoir, est-ce que les éditeurs se disaient pas, on tente un peu l'abonnement et puis on prépare quand même un plan B pour passer à un modèle free-to-play dans quelques temps si ça marche pas trop? Je pense que oui, parce que enfin tous les récents MMO qui sont sortis, même Star Wars, qui était quand même le jeu à l'époque avait eu où il y avait eu le plus d'argent mis dedans, je crois, qui a pas tenu et qui aujourd'hui marche très bien dans un système plutôt premium où tu peux payer un abonnement pour avoir accès à différentes choses ou de l'achat dans le jeu, mais qui dispose de pas mal de choses gratuitement.
Bah, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est le seul moyen de subsister face à World of Warcraft. Hein, donc.
Bah, aujourd'hui, ouais, il y a deux, trois modèles. Il y a celui de WoW où tu payes tout. Il y a celui style Guild Wars ou Diablo où tu achètes ton jeu et après tu joues en ligne gratuitement. Et après, il y a celui d'Eve Online qui est encore aussi un peu différent où tu as des extensions gratuites, mais tu dois aussi payer un abonnement. C'est encore un peu différent aussi.
Sachant qu'en plus, tu peux payer ton abonnement avec la monnaie du jeu dans Eve Online.
Oui, voilà, c'est encore un modèle, ouais, c'est un modèle encore différent et qui est pas reproduisible facilement.
Donc voilà, encore un MMO qui se plante, hein, enfin bon, j'ai envie de dire quelle surprise, hein. Je sais pas, moi c'est vraiment l'énigme pour moi, tous ces MMO qui essayent d'occuper une case qui est déjà occupée par un énorme jeu, une énorme boîte, c'est très particulier comme concept, mais bon écoute, voilà, comme vous voulez les mecs, hein. Vous ne donnez pas après si le jeu passe en free-to-play, c'est tout.
Il faut savoir que Wildstar, sur le début de l'année fiscale de l'année dernière, en fait, gagnait 25,5 millions de dollars. Et à la fin de l'année fiscale, ils en étaient plus qu'à 5 millions. Donc c'est pour vous montrer un petit peu
la chute
dramatique qui a du coup motivé en fait ce changement de l'abonnement au free-to-play. Donc c'est on peut comprendre un petit peu voilà comment des revenus 5 fois moins élevés peuvent motiver un changement drastique comme celui-ci.
Bon, en plus apparemment c'était un MMO qui se voulait hardcore, d'ailleurs je crois que Mamie avait bien apprécié.
Ouais.
Donc les amateurs de MMO hardcore vont être déçus, je pense. On vous donne rendez-vous au prochain MMO qui fera ça free-to-play parce qu'il a voulu se lancer sur le même terrain que World of Warcraft. Tout simplement.
Bah, il y en a plus beaucoup, hein, là, du coup, qui restent.
Ah, si, si, t'as tous les MMO coréens qui devaient être bac à sable, tout ça, et qui, au fur et à mesure des bêtas, passent en mode theme park à la WoW. C'est un truc que je ne comprendrai jamais, ça. C'est les mecs, ils ont un concept, tu vois, qui est à part, qui est sympa. C'est une tradition maintenant chez les Coréens, j'ai l'impression.
Mais quand on voit, par exemple, que World of Warcraft, les abonnés commencent à arriver dès qu'il y a une nouvelle extension, et puis deux mois après, ça commence à chuter sévère. Jusqu'au niveau 20, le jeu est gratuit, après tu dois repayer. Maintenant, ils ont quand même mis ce système un peu comme dans Eve Online, où tu parlais que tu joues, tu gagnes des pièces d'or, et bah tu peux continuer à payer ton abonnement avec. Tu vois, donc même WoW s'adapte au marché actuel. Ça veut dire que pour les nouveaux arrivants, c'est beaucoup plus compliqué. Quand tu vois que même Blizzard...
Ouais, bah en même temps, Blizzard, ils ont tellement tiré sur la corde qu'à un moment...
Ouais, bah voilà, oui, non, mais ça fait quand même plus de 10 ans que le jeu est sorti. Il y a toujours un nombre incroyable de joueurs dessus, parce que c'est voilà, il y a quand même plus de 7 millions de joueurs, je crois, encore à l'heure actuelle. Mais ils commencent quand même à changer leur politique économique. Même eux s'adaptent, alors que c'est vraiment l'emblème du MMO.
Bah après, le marché du MMO a changé, etc. C'est vrai que le free-to-play, c'est malheureusement, enfin ça c'est mon avis, hein, un peu devenu la norme. Donc bon, faire payer un abonnement, tout ça, et quand tu t'appelles pas WoW, c'est compliqué.
Je sais pas si Final Fantasy XIV, on paye un abonnement ou pas, mais après...
Oui, oui, mais si, il marche bien d'ailleurs.
Il marche bien, c'est ce que j'allais dire, c'est un des rares qui est sorti depuis plus de 2 ans et qui arrive à tenir encore en un modèle économique pas d'abonnement.
Bah comme Final Fantasy XI.
Comme ou qui avait une grosse communauté derrière aussi, ouais.
Voilà.
Mais moi, pour avoir un peu joué au XIV, c'était un jeu totalement différent de WoW. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça, il marchait pas enfin, totalement, ça restait un MMO.
Tu parles de quelle version, là,
de la version qui a été refaite, qui est sortie il y a 2 ans.
Ouais,
là.
Tu parles pas de la
première. Ouais, pas de la première. De celle qui a été refaite, ouais, ouais. Mmh. Et alors, WoW, j'avais testé par pure curiosité. Et j'ai testé aussi le Final Fantasy, j'avais pris 2 ou 3 mois d'abonnement. Et pour moi, c'était des jeux vraiment différents dans un style MMO. Et je pense que c'est peut-être ce qui fait aussi la différence. Enfin, et la communauté Final Fantasy, hein, bien sûr.
Final Fantasy, tu achètes le CD et puis tu payes un abonnement en plus, c'est ça?
Ouais, comme WoW, pareil.
D'accord.
Okay. Oui, c'est un abonnement.
Comme WoW au départ ou WoW aujourd'hui, si tu veux jouer à une extension, faut que tu payes ton extension et après tu payes ton abonnement.
Oh, c'est une modèle à l'ancienne, ouais. Quoi, le modèle traditionnel. Bon, messieurs, je vous propose que nous terminions cette semaine d'actualité. Nous allons passer à notre preview du moment, mon très cher Mordren.
Ouais.
Mordren, tu as craqué. Allez, ouais. À vous. À vous tout.
J'ai craqué cette semaine pour un early access qui s'appelle Mad Games Tycoon. Et il me semble d'ailleurs qu'il y a très très longtemps, je vous avais fait un test d'un autre jeu qui s'appelait Game Dev Tycoon. Donc voilà, on va pas se mentir, il s'agit d'un jeu de gestion, vous savez que j'adore les jeux de gestion. où il vous faut vous mettre à la tête d'un studio de développement de jeux vidéo.
Sachant que Game Dev Tycoon était lui-même un plagiat d'un jeu qui était sorti sur mobile.
Voilà, je sais plus comment ça s'appelait l'autre, c'était Game Dev Story peut-être.
C'est ouais, ça.
Oui, c'est ça.
Voilà. Bon. Par contre, le premier, j'y avais pas joué. Mais donc voilà. J'ai recraqué et j'ai eu raison. Vous allez voir pourquoi. Alors c'est un Early Access qui est sorti en janvier 2015. C'est développé par un développeur que je ne connaissais pas qui s'appelle Egg Code Games, qui à mon sens n'avait rien développé avant. Donc sur le pitch du jeu, Mad Games Tycoon, en gros, ça prend la base de Game Dev Tycoon, c'est-à-dire un studio de développement, voilà, vous développez des jeux vidéo, vous avez vos notes, vous rentabilisez, etc., etc., et vous...
Tu commences dans ton garage?
Voilà, vous commencez dans votre garage, et vous augmentez jusqu'à avoir un studio de développement jusqu'à 7 personnes dans Game Dev Tycoon, et c'est là que Mad Games Tycoon propose quelque chose d'un peu plus intéressant, c'est-à-dire que là, dans Mad Games Tycoon, on ajoute un aspect construction et expansion physique du studio, ainsi qu'un côté ressources humaines, donc vous allez devoir gérer le recrutement, la formation et le bonheur de vos employés.
Le point faible de Game Dev Tycoon, pour à mon sens. Parce que vraiment, c'était ridicule, quoi. T'avais quasiment pas d'employés dans ton studio.
C'est ça.
Il y avait juste plus de gestion à ce niveau-là, quoi.
C'est ça. Et je m'en suis rendu compte en y rejouant un petit peu, parce que j'y ai rejoué un petit peu la semaine dernière avec un pote. Et c'est vrai que Game Dev Tycoon est un jeu qui reste encore très amusant, mais qui montre pas mal de limites quand on commence à y rejouer, en fait.
Bah, disons qu'à l'époque, on avait été super indulgents parce que c'était très frais comme concept.
C'est ça.
Et donc, du coup, c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte des petits défauts.
Et au fur et à mesure, en fait, tu te rends compte que... Alors, effectivement, il y a eu des mises à jour. Ils ont ajouté un certain nombre de choses, notamment la gestion des MMO, etc., etc. Mais il manque quand même un certain nombre de choses qui sont évidentes. Par exemple, des plateformes qui n'existent pas dans Game Dev Tycoon. Je parle par exemple de la 3DS, de la Game Boy Advance. Il y a des genres de jeux qui n'existent pas, notamment les FPS, les TPS. Voilà. Et donc, tout ça, Mad Games Tycoon les ajoute. Donc, c'est des choses qui m'avaient manqué, moi, personnellement, dans Game Dev Tycoon. Et ils arrivent enfin dans Mad Games Tycoon. Donc, il y a une profondeur de jeu qui est... vraiment différente dans Mad Games Tycoon, puisque tu es à la fois le directeur de ton studio de développement, mais tu es aussi le directeur des ressources humaines. Et ça change pas mal de choses, et t'es aussi le chef de chantier, on va dire, l'architecte, en fait, qui va essayer de... Voilà, d'optimiser l'espace qui t'est dû dans ton studio, et ça ajoute quelque chose qui est... Voilà, t'as plusieurs strates de gameplay, du coup, dans Mad Games Tycoon.
Est-ce qu'on peut jouer Bobby Kotick
en DLC?
Alors, il me semble pas qu'il y ait de DLC, ça c'est pas encore à l'ordre du jour, mais tu peux jouer vraiment un connard. Parce qu'au final, en fait, de fil en aiguille, tu peux devenir un éditeur de jeux vidéo, en fait. Tu peux choisir d'investir dans une compagnie, dans un studio de jeux vidéo, en fait. Donc tu rachètes des parts, de 25% en 25%, jusqu'à l'avoir vraiment dans ton escarcelle, donc tu es actionnaire à 100% de ce studio de développement, et tu peux comme ça, en claquant des doigts, décider de fermer ce studio. Et ça, rien que pour ça, j'adore.
Mais par contre, est-ce que du coup, il y a des conséquences, tu sais, au niveau de la presse, etc., parce que ça, c'est un aspect qui aurait mérité d'être développé dans Game Dev Tycoon, c'est tout l'aspect presse, justement, t'as les notes, etc., mais est-ce que du coup, t'as les relations presse à côté?
Y a pas encore ça. Alors, t'as une cellule marketing que tu peux développer dans Mad Games Tycoon, mais pour l'instant... voilà, on n'est pas encore assez avancé à ce niveau-là. Je suis pas sûr que qu'on y arrive. C'est vrai que dans Game Dev Tycoon, il y avait des trucs qui étaient plutôt marrants. Il y avait des journalistes qui vous demandaient des interviews pour vous demander voilà ce que vous alliez privilégier dans votre développement. Ça n'existe pas, peut-être pas encore dans Mad Games Tycoon. J'y reviendrai plus tard. Donc voilà, donc il y a beaucoup plus de consoles, des ajouts de studios concurrents. Dans Game Dev Tycoon, t'étais un petit peu en vase clos, tu savais pas exactement ce que la concurrence publiait, etc., etc. Alors que dans Mad Games Tycoon, pour le coup, tu as un équivalent de Blizzard Entertainment, un équivalent de Epic Games, un équivalent de Quantic Dream, par exemple.
Mais est-ce qu'on peut se faire racheter, nous?
Non.
Parce que tu vois, ça serait fun de survivre dans ce monde impitoyable. Au pire hostile.
Tu disais qu'il y avait des côtés qui citaient des noms comme Blizzard et tout ça, mais il y a des petits easter eggs sympas ou pas dedans?
Il y a que ça, quasiment. C'est là pour le coup, c'est déjà ça en soi, c'est des easter eggs, tu vois.
Ouais, mais genre après, est-ce qu'il y a des petites piques senties vers tu sais pas, Activision ou trucs comme ça quoi. C'est le truc qui est...
Non, ça y a pas. Par contre, t'as aussi des équivalents des éditeurs.
Ouais.
Et tu vois, en fait, au début du jeu, surtout, t'as besoin de te faire éditer par un éditeur, puisque tu ne peux pas t'auto-éditer. Pour l'instant, ça coûte beaucoup trop cher.
Ouais.
Et donc, tu vois, en fait, la liste des éditeurs qui sont intéressés par le jeu que tu viens de produire, et d'autres qui ne sont pas intéressés. Et donc, évidemment, plus tes jeux sont bons, plus les éditeurs ont envie de t'éditer. Et tu vois aussi, on va dire, l'argent que tu vas générer, en fait, avec cette édition. Donc, t'as des éditeurs qui vont te donner quasiment que dalle, des éditeurs qui vont donner un petit peu plus, t'as des éditeurs qui ont une fanbase qui adore les FPS, t'as des éditeurs qui n'ont pas du tout de portée au niveau du public, donc au final, tu fais un petit peu ton shopping là-dessus. Au début, t'as pas trop le choix, mais au final, voilà, tout le monde a un petit peu besoin de toi ou envie de tes jeux, plus ils sont bons. Donc voilà, t'as des easter eggs là-dessus, t'as aussi une génération de... des noms de tes jeux, si t'es quelqu'un qui a pas beaucoup d'imagination, tu peux générer aléatoirement ton le nom de ton jeu, et là, pour le coup, c'est que des easter eggs avec des références à des jeux qui existent, évidemment.
Bon, en définitive, ce qu'on faisait dans Game Dev Tycoon...
Exactement.
Tout seul, quoi.
Voilà.
Mais du coup, c'est quoi, vraiment... Alors, j'ai bien compris que, voilà, ils ont rajouté des consoles, etc., mais est-ce qu'il y a des mécaniques de gameplay qui ne sont qu'à lui, en fait ?
Oui. Alors, donc, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, vous... Au fur et à mesure du jeu, en fait, votre studio va être amené évidemment à augmenter en taille, et vous allez débloquer en fait un certain nombre de salles. Donc au début, évidemment, vous n'avez que la salle de développement et les chiottes, puisque évidemment vos vos employés ont besoin quand même de se soulager.
Non non.
Non non, tu n'as pas le droit. Et tu vas finir par débloquer la salle de recherche qui va te permettre évidemment de débloquer les genres, les thèmes et aussi les technologies en fonction du temps. C'est la salle de contrôle qualité. J'aime beaucoup cette salle. C'est une salle en fait qui va te permettre de débugger ton jeu en même temps que tu le développes. Donc mettons t'as 4 développeurs qui développent ton jeu, qui mettent une tonne de bugs. Au début du jeu, tu n'as pas le choix, tu le sors buggé.
Ah, tu peux pas débugger, prendre le temps de débugger comme en Game Dev Tycoon.
Non. Au début du jeu, généralement, t'as genre 3-4 bugs qui se battent en duel, donc ça va. Mais une fois que tu passes beaucoup plus de temps sur le développement, tu peux facilement arriver à des 500 bugs, tu vois. Donc c'est là que la salle de contrôle qualité entre en jeu.
Ton studio, est-ce qu'il s'appelle Ubisoft ou pas?
Tu peux avoir un studio qui s'appelle grosso modo Ubisoft.
Ouais, là, je comprends mieux les bugs.
Et donc la salle de contrôle qualité est doublement intéressante parce que elle peut te permettre aussi de développer des améliorations de gameplay pendant le développement du jeu. Donc, par exemple, améliorer les mécaniques de jeu, améliorer les performances, bref. T'as un certain nombre d'aires de jeu que tu peux améliorer grâce à cette salle-là. Donc, tu as 4 personnes qui développent ton jeu et 2 autres personnes qui sont assignées au contrôle qualité, par exemple. Et plus tes jeux sont grands, évidemment, plus tu vas essayer d'augmenter le nombre d'employés qui gèrent un certain nombre de sujets. T'as aussi le studio son. C'est le pendant du contrôle qualité, mais pour tout ce qui est bande originale, son
ouais,
d'ambiance,
donc, en
etc.
Gros,
etc.
Tous les trucs que tu sais que tu rajoutais dans ton moteur, etc., dans Game of Tycoon, ils sont là, sauf qu'en plus, tu as tout l'aspect expansion du studio qu'il n'y avait pas avant, quoi.
C'est ça. Et donc, je disais, t'es un petit peu le directeur des ressources humaines, c'est parce qu'aussi, tu dois gérer la formation de tes employés, donc t'as une salle qui est grosso modo une école où tu vas choisir des cours pour tes employés pour qu'ils développent certaines qualités. Mettons, les membres du studio son, tu vas développer leurs qualités sur musique et son. Les développeurs, tu vas leur faire des cours de game design et de programmation. Et puis tous ceux qui gèrent par exemple le marketing ou le support client. Donc ça, le support client, en fait, c'est les gens qui gèrent la satisfaction de tes fans, puisque tes fans peuvent aussi être déçus de ce que tu produis et du coup être un petit peu moins contents et donc acheter moins tes jeux. Donc le support client gère un peu ça, donc avec des campagnes.
J'ai l'impression qu'en fait c'est beaucoup moins au doigt mouillé que pouvait l'être Game Dev Tycoon, parce que Game Dev Tycoon, des fois ton jeu il sortait, t'avais des mauvaises notes, tu comprenais pas trop pourquoi en fait, alors que t'avais bien chiadé le truc. Là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de hasard entre guillemets.
Oui, c'est vrai. Alors par contre au début t'as pas vraiment le choix, tu vas te taper des notes pourries parce que la technologie n'est pas encore là pour faire des jeux intéressants. Je vais te dire, faire des jeux avec du texte seulement, c'est un petit peu compliqué d'avoir un 90 sur 100, tu vois. Parce que le jeu, c'est des notations sur 100%. Et donc en général, au début du jeu, tu vas te taper des notes qui sont pas géniales. Mais au final, tu, à force de polir un peu ton jeu, enfin de prendre le temps de le polir, parce que tu peux très bien le sortir comme ça, mais tu vas avoir des notes qui sont moins bonnes forcément. Tu peux, on va dire, avoir un standard de qualité qui est aux alentours de 75-80%. Et donc c'est effectivement, tu peux gérer un petit peu un studio de manière, on va dire, exemplaire. Tu peux très bien aussi faire en sorte d'être un pur connard, hein, mais ça existe aussi.
Alors est-ce qu'on peut sortir un DRM qui s'appelle Grosse Plaie, tu vois?
Alors ça n'existe pas encore, mais il y a une comment dire, une mécanique de jeu qui s'appelle la protection de tes jeux. Donc c'est, en gros, c'est un DRM, hein, c'est la protection contre la copie, qui est censé faire vendre plus ton jeu, en fait. Sauf qu'évidemment, si t'achètes pas la dernière protection contre la copie en date, ton jeu va pas être protégé à 100%, tu vois. Donc à chaque fois, ça te coûte de l'argent aussi sur ton développement, enfin bref. C'est plutôt intéressant. Évidemment, quand tu débloqueras la technologie qui peut te permettre de produire des MMO, il va falloir que tu gères aussi la salle des serveurs, parce que ça te coûte de l'argent aussi, la salle des serveurs. Plus t'as de joueurs, plus t'as besoin de serveurs gros, donc évidemment, plus ils vont te coûter de l'argent. Et donc, tu te rends compte que voilà, c'est pas forcément voilà, le MMO, c'est, ça peut te coûter très cher aussi.
Ouais, mais est-ce que c'est aussi délirant que dans Game Dev Tycoon, ou moi franchement la mécanique de MMO dans Game Dev Tycoon, je la trouve juste pas crédible, quoi.
Ah ouais, mais j'ai toujours détesté ce moment le moment dans Game Dev Tycoon où tu produis un MMO où ça devient beaucoup trop cher. Moi, généralement, j'attendais d'avoir 1 milliard pour, tu sais, pour balancer un MMO. Et au fur et à mesure, tu te voyais, genre, au bout de 2-3 ans, bah, t'avais plus que 200 millions d'euros, tu sais. Là, pour le coup, c'est beaucoup moins délirant, parce qu'en fait, tu te rends compte que les abonnements, évidemment, sont au pic sur, au moment où le jeu se vend le plus. Et après, les abonnements déclinent, jusqu'à ce que tu décides de toi-même de couper les serveurs, en fait.
Mais tu vois, là encore, je trouve pas ça satisfaisant, parce que, je trouve dommage, par exemple, tu vois, qu'on puisse pas... alors là, sur ce MMO-là, je vais faire un petit MMO, tu vois.
Ouais.
Et je vais essayer de grossir au fur et à mesure ma fanbase. Enfin, il y a... Tu peux pas adopter de stratégie, en fait. Ça manque de subtilité, je trouve,
oui,
à ce niveau-là encore.
Effectivement.
Enfin, de ce que tu en dis, en tout cas.
Oui, oui, non, mais clairement. Donc ça... C'est... Bon, après, il faut rappeler aussi quand même que c'est un early access qui a 4 mois. Hein.
Oui.
Donc, bon, j'imagine qu'il y aura des développements là-dessus, mais c'est vrai que là, on fait une preview, donc c'est à l'instant T. Et il y a aussi une salle très importante, c'est la salle de fabrication, c'est-à-dire que tu peux t'auto-éditer, mais t'auto-éditer, ça veut dire que tu fabriques toi-même les galettes, enfin, les disquettes au début du jeu, ou tes, ou les CD plus tard.
Vivement Steam.
C'est ça. Et tu, et ça, d'ailleurs, Steam n'existe pas dans le jeu pour l'instant.
Ah.
Donc, quand tu fabriques, tu décides ce que tu veux mettre dans la boîte, c'est-à-dire si tu veux juste le CD ou la disquette, si tu veux mettre un manuel de jeu, si tu veux mettre un poster, si tu veux mettre un t-shirt, voilà, tout ça, ça augmente évidemment les coûts de production, et donc le coût pour le client, mais ça peut aussi... Alors par contre, si tu mets juste le CD et que tu augmentes le prix de façon démesurée, tu vas avoir un jeu qui te rapporte $30 alors qu'il t'a coûté 31, tu vois. Donc voilà, tu peux devenir Activision. Du coup, voilà, tout ça, c'est des salles que tu vas débloquer au fur et à mesure du jeu, et que tu ne peux pas mettre évidemment quand tu commences dans ton garage. Donc il va falloir que tu achètes évidemment un bureau qui est beaucoup plus grand pour caser un petit peu tous ces aspects du développement de jeu. Donc au final, c'est beaucoup plus profond qu'un Game Dev Tycoon, puisque tu fais vraiment toutes les étapes qui peuvent t'amener à devenir un éditeur, en fait.
Mais si j'ai bien compris, Mandren, comme tu dis qu'il n'y a pas Steam, en fait, c'est-à-dire que ça se passe dans le passé, donc tu fais encore la rétrospective des consoles et tout ?
Alors, tu commences en 1980.
D'accord.
Et il n'y a pas de fin au jeu, hein. Donc là, actuellement, ma partie la plus avancée, je suis en 2030. Voilà, les consoles sortent au bon moment, c'est-à-dire à la date exacte à laquelle elles sont sorties dans l'histoire. Alors après, évidemment, bah, quand tu dépasses la PS4 et la Xbox One, il me semble que t'as une console inventée derrière, c'est genre la Xbox je sais pas quoi... Dans Game Dev Tycoon, c'était la Xbox Next, et après t'as la PS5, un truc dans ce genre-là. Mais et la Wii U Unlimited ou un truc dans ce genre-là chez Nintendo. Et après, t'as plus rien qui sort, en fait. Mais quand je disais que Steam n'existe pas dans le jeu, c'est-à-dire que Steam, je sais plus depuis quand ça date, mais en gros, y a pas l'introduction, en fait, de la dématérialisation, alors qu'il y avait dans Game Dev Tycoon.
Et ça, tu vois, justement, ça serait un truc qui serait bien qu'ils rajoutent.
Ouais.
Un côté, tu vois, limite roguelike, enfin, généré aléatoirement, quoi. C'est-à-dire qu'on, t'as des nouveaux concurrents qui pop, etc.
Ouais.
Et du coup, ce serait bien. Je sais pas si vous avez vu ce jeu de stratégie là qui est sorti en Early Access il y a pas longtemps, où tu peux racheter des concurrents, etc. En fait, c'est un jeu de stratégie économique. Si
ah oui, Adventure Capitaliste.
Enfin, qui est dans l'espace. Il y a eu un gros buzz dessus, enfin bref, peu importe. Je me disais, tu vois, ce genre de mécanique où tu pourras acheter tes concurrents et tout, enfin ça serait bien, tu vois, que derrière ils développent cet aspect là aussi, quoi, que quand tu arrives à la fin, bah c'est pas la fin, quoi, en fait. C'est vraiment t'es un mode libre, quoi, entre guillemets, où t'as des vraies stratégies de concurrents, enfin où t'as vraiment du répondant en face, quoi, si tu veux.
Ouais. Alors pour l'instant, c'est pas trop ça au niveau de l'endgame, donc tout ce qui est du coup après la PS4 et la Xbox One. Game Dev Tycoon avait par exemple ajouté un tableau des scores pour te donner un petit peu envie de battre ton score à chaque nouvelle partie. Là pour le coup, il y en a pas dans Mad Games Tycoon, donc pour l'instant, bah voilà, t'as pas vraiment d'intérêt à continuer à jouer, en fait. Ce qui est plutôt dommage, c'est vraiment un des premiers inconvénients, enfin un des premiers points faibles de cet early access pour l'instant, c'est que t'as pas vraiment de, enfin, c'est pas vraiment légitime de continuer à jouer une fois que t'es en 2030, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai recommencé une partie, par exemple. Après, t'as au niveau aussi des inconvénients, tu as un manque de visibilité, à mon avis, sur ce que compte faire le développeur à l'avenir. Je sais par exemple qu'ils comptent ajouter un studio de motion capture et un studio graphique aussi, pour gérer justement tout ce qui est lié au graphisme dans tes jeux, d'un petit peu de la même manière que le support client, pas le support client mais le contrôle qualité. Donc ça, c'est plutôt intéressant, mais pour le coup c'est juste des salles qui vont développer un petit peu le gameplay et mais pas faire grand chose d'autre. Donc moi j'aimerais bien par exemple qu'ils ajoutent le côté dématérialisation, qu'ils ajoutent un tableau des scores, une vraie rejouabilité au jeu, le côté extension aussi, et pourquoi pas DRM qui existe dans Game Dev Tycoon. Donc voilà, le problème c'est que je sais pas exactement où veut aller le développeur actuellement. Donc voilà, le jeu dans l'état actuel, il est assez marrant, voilà, j'y ai passé une petite dizaine d'heures. C'était assez agréable. Par contre, c'est un early access, donc je m'attends à ce qu'il y ait des développements un petit peu plus loin que cette base. Il faut savoir quand même que le développeur met à jour son jeu toutes les semaines, donc il y a un vrai suivi derrière, mais il n'y a pas, on nous offre pas une vision du futur du jeu, et ça, je trouve ça plutôt dommageable pour un early access.
C'est Offworld Trading Company, au fait, hein, le jeu dont je parlais tout à l'heure. Dernière question, le jeu a l'air donc plus complexe, mais du coup, est-ce que l'interface suit ? C'est clair, tu te perds pas dans les menus, voilà quoi.
Non, franchement, l'interface est plutôt plutôt agréable et plutôt accessible. Ce que je regrette par contre, c'est qu'on fait énormément de clics. On clique beaucoup dans ce jeu, ce qui me change un petit peu de Game Dev Tycoon où tu faisais tout en quelques clics et c'était fait assez rapidement. Là, ce que je reproche un petit peu, c'est qu'il y ait des pop-up contextuels, ce qui te dit, bah voilà, t'as terminé de développer telle recherche, t'as terminé de développer telle amélioration sur ton jeu, t'as terminé tel moteur, t'as telle console qui vient de sortir. Donc au final, t'as énormément de pop-up qui te fait tout le temps cliquer sur OK, et au bout d'un moment, ça commence à être relou, en fait. Donc c'est... Je pense qu'il y a moyen d'éviter, enfin de réduire un petit peu tout ce nombre de clics.
Parce que... sais, genre un truc en bas de l'écran à droite, ouais, où tu regardes quand tu veux, tu vois.
C'est ça.
Voilà.
Alors il y a déjà ça en bas à droite. Il y a quand tel concurrent a sorti tel jeu. Ça, par exemple, on va pas te faire cliquer là-dessus. Mais on pourrait ajouter, genre par exemple, la sortie des consoles, par exemple,
ah oui,
ou un truc comme ça, parce que je pense que Enfin, il y a des moments où je suis en train de faire quelque chose et puis t'as un pop-up qui te dit, bah voilà, t'as telle console qui va arrêter sa production. Ou machin, machin. Donc au bout d'un moment, ça devient un peu pénible de tout le temps, tu sais, quand t'es en train de faire quelque chose en haut de l'écran avec ta souris, par exemple, et de devoir redescendre pour appuyer sur OK et ensuite revenir sur le... Bon, c'est une problématique de flemmard, hein, on est d'accord, mais c'est...
Je suis pas tout à fait d'accord, c'est pas une problématique de flemmard, c'est... au bout d'un moment, c'est pénible quand même, quoi.
C'est
quand
ça.
Tu dois tout le temps fermer la même fenêtre, machin, c'est chiant, quoi.
Et donc du coup, bon, je pense qu'il y a moyen d'optimiser un petit peu le temps de souris sur le jeu, mais ça reste accessible, très franchement. Par exemple, pour te donner une idée de comment ça se passe pour créer un jeu, en fait, t'as un premier menu qui va te dire t'as 5 possibilités. En gros, tu choisis ton genre, tu choisis le thème du jeu ensuite. Tu choisis le nom du jeu, tu choisis ensuite la plateforme, donc ça se fait assez rapidement. Et ensuite vient le menu concept du jeu, c'est-à-dire t'as 5 options, c'est-à-dire que tu privilégies soit le gameplay, soit les graphismes, ensuite soit l'histoire, soit la durée du jeu, soit l'atmosphère, soit le fonctionnement, soit la profondeur de jeu, soit le côté convivial, soit un jeu plutôt gamer, soit un jeu plutôt occasionnel. Et ensuite... Un deuxième menu, c'est pour... t'as un pourcentage, en fait, qui commence à zéro, et ensuite tu accordes un certain nombre de pourcentages au graphisme, au son, à la technologie et au gameplay.
C'est similaire à Game of Tycoon.
Exactement. C'est très similaire, mais au final, tu fais ça sur deux menus et pas 3-4, comme c'était sur Game of Tycoon. Donc au final, c'est... très franchement, c'est très accessible. Au début, par contre, vous allez être rebuté par le fait que vous tapez des sales notes. Mais au final, vous allez vendre petit à petit et vous rendre compte que vous allez un petit peu peaufiner votre concept de jeu et vous rendre compte que voilà, il faut plutôt privilégier ça plutôt que ça. Et au final, vous allez voilà augmenter un petit peu les notes, augmenter les ventes et vous serez parti sur quelque chose d'assez intéressant sur votre studio. Donc il y a une véritable courbe d'apprentissage aussi. Donc c'est pas forcément facile, mais voilà, on peut on peut creuser de plus en plus et avoir un studio qui s'épanouit vraiment jusqu'à devenir un éditeur. Moi par exemple, j'ai 50% des parts de Blizzard Entertainment par exemple.
Et justement, ça, ouais. Quand tu parlais tout à l'heure de tu sais des fans qui pouvaient être déçus. Ouais. Est-ce que par exemple, il y a une cohérence dans le jeu si tu sors par exemple, tu fais que des RPG, t'es spécialisé RPG et que d'un coup tu sors un FPS, est-ce que tes fans vont être déçus? Et même est-ce qu'il y a une cohérence par rapport si tu sors une suite d'un jeu qui avait fait un carton voilà, est-ce que c'est logique ou bien tu peux faire n'importe quoi et finalement les fans si tu sors par exemple, tu fais du casual et d'un coup tu fais un jeu hyper hardcore, est-ce qu'ils vont réagir à ce niveau-là quoi?
Alors il n'y a pas vraiment d'habitude prise par le public, c'est-à-dire que à partir du moment où tu fais un jeu qui est bon, c'est pas très grave, les fans vont suivre. Après tu peux les décevoir effectivement, voilà. Après ce qui est plutôt au niveau du support client, il faut faire attention au nombre de fans que t'as, parce que plus ton nombre de fans est important, plus tu vas avoir besoin de personnes qui vont gérer le support client en fait. Donc au départ évidemment tu peux avoir qu'une seule personne qui gère ça, mais moi par exemple là sur ma partie j'ai 1 million de fans, donc là j'ai 5 personnes qui gèrent le support client, parce qu'au final en fait si t'as pas de support client assez important, tes fans vont pas avoir un rapport avec ton studio qui sera assez développé en fait. Donc voilà, c'est pour répondre à ta question, c'est oui et non. C'est pas encore poussé à ce point-là, mais tu peux les décevoir. Après, si tu te débrouilles bien, ce qui est mon cas, tu n'as pas vraiment le studio, l'exemple catastrophe dont tu parlais.
Ok. Bon messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là.
Ouais.
Ok.
Ouais.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, messieurs, dames. Bye bye à tous.
Salut.
Ciao.